Sidney Crosby a 8 points en 4 matchs depuis son retour au jeu.
L'avant-match.
Dans l'avant-match, voici Louis-Jean.
Monsieur Louis, comment ça va?
Ben, the man, ça va très bien. Et toi, mon cher?
Ça va très bien, merci. J'ai une interrogation et une question. Tu veux qu'on commence par quoi?
Allons-y avec l'interrogation.
Comment m'expliques-tu que les partisans du Centre Bell ont hué samedi soir Max Pacioretty?
Écoute, c'est le genre de choses qu'on voit régulièrement. Je veux dire, mais en même temps, c'est décevant. Si tu me poses la question, je trouve ça décevant de voir un gars qui a tellement fait. Il a marqué, écoute, combien de saisons? C'est 6 saisons de 30 buts ou plus avec le Canadien. Il a cogné la porte des 40 buts. Alors ça, c'est le genre de choses. Je sais pas, je me posais la question, est-ce que c'est parce que les gens doutent de sa sincérité quand il disait qu'il voulait demeurer à Montréal? Je sais pas, j'ai de la misère à l'expliquer, mais combien de fois on voit ça? Comment expliquer pourquoi qu'on huerait un gars comme, par exemple, Sidney Crosby? Tu vas me dire, bon, il a jamais joué à Montréal.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, des légendes comme ça, je le comprends pas. Je peux comprendre Zdeno Chara. Il y a un peu plus de difficulté à comprendre un joueur comme Sidney Crosby.
Ouais, puis Max Pacioretty, ça avait été le cas avec bien d'autres Canadiens qui ont pris la route, qui n'ont pas pris la route, mais qui ont quitté Montréal. Souviens-toi, Louis, à l'époque où Daniel Brière avait une décision à prendre puis il avait choisi les Flyers, après ça, il est venu jouer pour le Canadien, mais quand il a pris la décision de quitter Buffalo pour aller jouer à Philadelphie, le premier match que je jouais avec les Flyers au Centre Bell, les gens l'ont hué parce qu'ils se disaient « Colin, il aurait pu venir ici, puis il n'est pas venu. » Lui, il a écrit
« Mais ça, je le comprends. Mais ça, je le comprends. Ça, il y a une logique.
Oui.
Dans le cas de Max, la seule chose que je me dis, et là, je suis complètement probablement dans le champ, je ne sais pas, je peux pas me mettre dans la peau des partisans, mais je me suis dit, lui, il a dit, et à haut et fort, tout l'été, et la saison dernière, là, avant qu'il soit échangé, il disait, moi, je suis le capitaine, et c'est un honneur pour moi d'être ici à Montréal. Je veux rester ici, je veux compléter ma carrière ici, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on entend quand il quitte? On entend que, clairement, ça chauffait entre lui et le directeur général, mais que finalement, il voulait quitter Montréal. Alors, qui dirait? Honnêtement, je peux vraiment complètement comprendre Max Pacioretty parce qu'il se donnait cœur et âme pour cette organisation-là. Même à un moment donné, je pense que peut-être qu'on le pointait du doigt, peut-être qu'il avait l'impression qu'il se donnait, puis que malgré tout, on n'appréciait pas ou on l'entourait pas bien. De toute façon, c'était devenu quelque chose, une situation qui était plus tenable. Il fallait absolument, je pense, agir. Et honnêtement, à froid, quand on regarde la transaction, Suzuki, Tatar, choix de deuxième ronde, le Canadien a quand même très bien fait. Puis j'ai parlé avec George McPhee, le président de l'équipe qui était le DG à l'époque des Golden Knights. Oui. J'y ai parlé, lui, samedi, ou en fait vendredi, le jour avant le match.
Oui.
Et lui, il me disait, écoute, moi, je trouve que la transaction, j'analyse et je vois ce que les deux autres font, mais elle est bonne pour les deux équipes.
Oui.
Moi, ce que j'aime, des grosses équipes, je suis un petit joueur, je sais c'est quoi aller dans le coin, puis d'aller sortir la rondelle, c'est pas facile. Moi, j'apprécie, je préconise une équipe plus grosse, plus physique, et lui, il cadre dans exactement ce qu'on avait de besoin.
C'est rare qu'on dise ça d'une transaction, mais dans ce cas-ci, je pense sincèrement que la transaction est excellente pour les deux équipes. Mais je pense juste qu'à Montréal, les gens trippent sur leur équipe. Quand t'es dans leur équipe, ça va bien. Puis quand t'es plus dans leur équipe, ben là, on se permet de te crier chou. Mais j'ai de la misère avec commentaires d'auditeurs, Louis, sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, là, les gens payent 200-300$, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. » Non. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie-là. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent prendre des hot dogs. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller au Centre Bell puis prendre des hot dogs, puis prendre une petite bière des fois. Mais de crier chou à un gars qui a joué dans ton équipe, j'ai de la misère à me l'expliquer, mais c'est pas grave. Même si on en parlait jusqu'à minuit, je pense qu'on trouverait pas la réponse.
Mais moi, là-dessus, par contre, je pense que quand tu payes, par exemple, un prix comme celui-là, je peux comprendre. Selon moi, tu as le droit de huer. Ça veut pas dire que tu es d'accord, mais
tu
as le droit.
OK, parfait. Tu donnes le droit aux amateurs. OK. Là, c'était l'interrogation. Voici la question maintenant. Mmh. Question très importante. Tu vas voir qu'on a même un thème qu'on a emprunté à Radio-Canada. On vient de baisser les lumières en studio. Tu n'es pas avec nous, mais je te dis, il y a vraiment un stress, Louis, pour la prochaine
question. Je suis nerveux, là.
La prochaine question. Tu es nerveux, hein? Puis sais-tu quoi? Je peux te rassurer, tu vas avoir une réponse pour moi. Je sais pas ça va être laquelle, mais je te convainc que tu vas avoir une réponse à la question « On fait quoi maintenant avec Kovalchuk? »
On essaie de continuer de lui donner du temps de glace. On essaie de bien le faire paraître. On veut le mettre dans la vitrine au maximum. Et là, quand le temps sera venu, on écoute et on voit ce que ça va donner. La réalité, là, c'est qu'il y a de l'adrénaline dans ce qu'on voit actuellement. Je veux dire, il n'y a pas de doute, et je l'ai mentionné samedi soir après la rencontre, je pense que les partisans sont assoiffés de superstars. Ça fait quoi? c'est quand la dernière fois qu'on a eu une vedette, là, tu sais, un joueur vraiment d'impact? Je pense que ça remonte à peut-être 94, quand on avait Vincent Danfousse. Tu sais, de ces genres, de ces années-là, ça remonte à loin, là. Ça remonte à loin. Le dernier moment où les partisans allaient voir quelqu'un qui se disait, lui, quand il est sur la glace, tout peut arriver. Rocky a quitté, je me souviens plus quoi. C'est un petit peu plus tard que ça. Rocky avait quand même connu une grande carrière. Peut-être au moins l'impact qu'on se serait attendu à Montréal, mais oui. N'empêche. Tu sais, je pense que c'est ça que le monde veut. C'est ce que les gens souhaitent. Alors là, ils voient en Kovalchuk là, presque le sauveur.
Ben oui.
C'est pas un sauveur. Il a 36 ans.
Non.
Hein, oubliez ça. Alors pour moi, si t'es capable d'aller chercher quelque chose en retour de Kovalchuk, tant mieux. Tu vas pas faire les séries, fort probablement pas. Écoute, on n'est pas mathématiquement éliminé, mais c'est presque impossible. Alors, va chercher quelque chose en retour. Et là, lui, il vient de se rendre compte à quel point il est apprécié à Montréal. Il vient de découvrir les partisans de Montréal qui semblent avoir souvent une relation d'amour avec les joueurs russes. Parlez-en à Alexis Kovalev, parlez-en à Alexander Radulov. Alors, pour moi, si t'es capable d'avoir quelque chose, une bonne monnaie d'échange, échange-le. Il va être joueur autonome à la fin de l'été, à la fin de la saison, c'est-à-dire... Peut-être que tu pourras le ramener si tu veux, pour pas grand-chose, espérons. Mais selon moi, tu peux pas te fier sur un joueur comme ça. C'est sûr qu'il peut plus jouer 21 minutes tout le temps. C'est le fun pendant que ça dure, mais ça peut pas durer comme ça pendant une longue période, pas sur 82 matchs, c'est impossible.
Deux choses. D'abord, les gens qui se demandent pourquoi le Canadien en arrache autant, c'est qu'Ilya Kovalchuk, actuellement, est le meilleur joueur. Fait que si lui, c'est le meilleur joueur à 36 ans, alors qu'il avait été largué par les Kings puis il jouait plus il y a 2-3 mois... Ça explique un peu pourquoi le Canadien en arrache puis le Canadien va manquer les séries. Deuxième chose, Louis, si tu l'échanges d'ici au 24 février, tu enlèves le plaisir aux partisans d'aller au Centre Bell d'ici la fin de la saison parce que c'est de loin le joueur préféré en date d'aujourd'hui. Je dis pas que Carey Price, les gens ont commencé à l'haïr. C'est pas ça que je dis, mais c'est un attaquant qui procure un bonheur et un plaisir aux partisans en se présentant au Centre Bell, tu leur enlèves ça d'ici la fin. Et à l'inverse, si tu le gardes en disant, comme tu as dit tantôt dans ton intro, c'est le sauveur, puis le 1er juillet ou d'ici la fin de la saison, tu lui donnes 2 ans, 5 millions, c'est de la foutaise.
T'as raison, t'as parfaitement raison et je suis d'accord avec toi. Mais si t'es un directeur général et tu te dis, ben là, faut que j'essaie de donner un petit... Faut que je vende un peu de rêve aux partisans, je pense que tu fais pas ta job, je pense que ta vision, si c'est ça... Sincèrement, je pense pas que tu es le gars qui devrait être en poste. Je suis pas sûr que je veux te donner les clés de mon organisation. Mais là, tu as touché un autre point important. Tu as mentionné le nom de Carey Price. Et tu sais comment souvent, toi et moi, on a débattu dans le passé, à savoir Carey Price, son rôle, son importance. Je sais pas si tu as vu le sondage dans The Athletic, mais The Athletic a sondé 400 joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Et la question qu'on leur a posée, outre ton gardien de but, quel est le gardien de but que tu voudrais avoir pour un 7e match de la finale de la Coupe Stanley? Qui est le premier à 33% de vote? Qui arrive au premier rang? Devine. Je te laisse, moi aussi, j'ai une devinette pour toi. Qui, selon toi, est au premier rang selon les joueurs?
Si tu m'en parles, j'imagine c'est Price, mais il faudrait qu'il se rende au 7e match de la finale de la Coupe.
C'est Carey Price. Tout ça pour dire que j'en ai parlé avec Will, j'en ai parlé souvent avec les téléspectateurs. Souvent, on m'écrit sur les médias sociaux, arrête de sortir ta cassette, arrête de défendre Price, arrête de défendre le Canadien tout le temps. Je ne défends pas le Canadien, je ne défends pas Carey Price. Je dis ce que je crois, ce que je pense et ce que j'entends et ce que je vois aussi. Et dans le cas de Carey Price, quand je te dis je parle avec des coachs ou des DG ou des recruteurs, et ils me disent Carey Price, là, nous autres à Montréal, on regarde 82 matchs, on regarde les matchs préparatoires, on l'entend régulièrement après les matchs, après les entraînements. À un moment donné, on est capable de voir ses forces, puis quand ça va pas bien, tout ce qu'on voit, c'est les défauts. Et c'est drôle, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs qui l'affrontent, ils disent, sais-tu quoi, lui là, il est encore le top selon moi. Alors, écoute, je voulais juste ouvrir la parenthèse pour dire les gens qui disent qu'on connaît pas ça, vous avez peut-être raison. Peut-être qu'on n'est pas parfait et je le suis certainement pas. Mais quand je vous dis que c'est le son de cloche, c'est ce que les joueurs me disent. Je suis pas en train de dire que Carey Price est toujours parfait et qu'il fait toujours le travail. Mais il y a beaucoup de joueurs, 400 sur à peu près 700 dans la Ligue, qui eux disent c'est encore le numéro un.
Mais ça se défend parce que si tu dis à quelqu'un, OK, admettons que tu dis que c'est pas lui le meilleur, c'est qui le meilleur? C'est très difficile parce que Jonathan Quick n'est plus le même gardien. Hey, Pekarinen n'est plus le même gardien qu'il a déjà été. Vasilevski, ça allait bien, mais ils ont perdu en 4 en série l'année dernière. Donc, c'est très difficile de nommer quelqu'un d'autre que Price. Par contre, pour jouer en finale de la Coupe au 7e match puis d'avoir Price, il faut que Price se rende là. Là, tu vas me dire qu'il n'y a pas une très bonne équipe.
Faut qu'il soit entouré aussi.
Oui.
Faut qu'il soit entouré.
Mais l'autre chose. C'est ça. Oui, mais l'autre chose, c'est que. Et là, les méchantes langues, vraiment méchantes langues. Moi, j'aurais jamais osé dire ça. Je vais juste rapporter ce que les gens disent. Les gens disent, comment expliquer que le meilleur gardien au monde n'est pas au match des étoiles?
Ah, oh, ben là, le match des étoiles, puis le scrutin, le vote et tout ça, ça, c'est une autre affaire. Puis je pense qu'il est très heureux de pas y être en passant, parce qu'il reste quoi? 50 matchs aux Canadiens, 32 matchs, c'est-à-dire, ils ont atteint le plateau des 50, là. Alors, écoute, lui, il va jouer beaucoup dans la deuxième moitié, dans le dernier droit de la saison, pour essayer au moins de garder cette équipe-là compétitive. Alors, il est pas là au match des étoiles. On aurait aimé ça le voir. On va voir Shea Weber qui va représenter le Canadien. So be it. C'est pas une épreuve de toute façon, c'est pas un week-end où les gardiens de but vont bien paraître de toute façon. Juste pour boucler la boucle par rapport à ce sondage-là, qui est le défenseur défensif, le meilleur défenseur défensif de la Ligue? On a dit que c'est Victor Hedman, mais au deuxième rang, Shea Weber. Un autre joueur que le monde semble dire, et en début de saison, il est fini, il est plus bon, il avance plus, il est plus tough comme il était.
Louis.
Ben, le monde semble quand même l'apprécier.
Non, j'en doute pas qu'il est bon. C'est juste que dans le plan de Bergevin, parce qu'il faut accepter le plan du vendeur de chars usagés, qui arrête pas de nous dire qu'en 2023-2024, cette équipe-là va être bonne, alors qu'il n'y a pas de garantie pour nous dire ça. Rendu là, Price et Weber vont être trop vieux. C'est juste ça que les amateurs
ça,
disent.
On est en accord. On est parfaitement d'accord.
C'est ça qui dérange les amateurs. C'est ça qui dérange les amateurs.
Oui, c'est je comprends. C'est pour ça que moi, je comprends la vision de Marc Bergevin dans ce qu'il essaie de bâtir. Mais je me dis, pourquoi ne pas capitaliser? Pourquoi ne pas vendre ton action, là? Pourquoi ne pas la vendre quand elle est à son meilleur? Je veux dire, Shea Weber est au match des étoiles. On a un sondage qui dit, regardez ce que le monde pense de lui.
Ouais.
C'est un leader. Mais en même temps, quand j'essaie vraiment pas d'être sur la clôture, là, puis juste de donner 50% d'un côté, 50% de l'autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je crois vraiment, et je le vois, l'impact que Shea Weber a sur ses coéquipiers en termes de comment se comporter, tout ça. Et puis pour ce qui est de Carey Price, je veux dire, là, le problème, c'est que tu l'échanges, OK, mais tu mets qui? C'est ça l'affaire, c'est ça la grande question. Tu mets qui? Parce que si tu échanges un joueur comme ça, tu vas être pire que les Red Wings de Détroit après. Je te le dis, tu seras plus capable de gagner. Alors, il faut quand même que tu demeures compétitif. Tu vas mettre qui dans le filet?
Est-ce qu'avec 7 points, il faut que je te laisse là-dessus, mais est-ce qu'avec 7 points et le retour imminent de Drouin, il y a encore des partisans qui rêvent aux séries?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui rêvent, mais est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on porte des petites lunettes roses? Est-ce qu'on est réaliste?
Un peu.
Peut-être pas, mais c'est ça la beauté du sport.
Exact.
Ça s'est déjà fait. C'est possible. En tout cas, c'est certainement pas impossible. Est-ce que moi, j'y crois? Non, pas vraiment. Tout ce que je souhaite, restez compétitif, continuez de vous battre.
Mais avec ça, il faut garder Kovalchuk, sinon les partisans vont avoir moins de fun à l'eau au Centre Bell. Un gros merci, Louis.
Toujours un plaisir. Salut, Dan.
Bonne soirée.